Alléluia. Seigneur, on te remercie pour ta présence, la présence de ton esprit. On te remercie pour ces chants, cette louange, cette adoration qui est montée vers toi, pour ce témoignage qui te glorifie. Merci, Père, pour tout ce qui prend place encore ce matin dans ce lieu. Seigneur, alors que la France commémore le centenaire de l'armistice, la fin de la Première Guerre mondiale qui rend hommage à ces nombreux soldats, connus ou inconnus, morts sur le champ de bataille pour la France avec de nombreuses cérémonies, et que ce jour fête la victoire et la paix, nous voulons nous rappeler qu'il y a une autre guerre qui existe depuis bien plus longtemps, qui a fait davantage de ravages et de victimes connues ou inconnues, et qui sévit encore aujourd'hui, la guerre contre une arme dévastatrice qui s'appelle le péché. Mais un homme, et pas n'importe quel homme, est venu sur la terre pour signer notre armistice avec Dieu. Et c'est pourquoi nous nous réunissons pour célébrer son nom, célébrer sa victoire et la paix qu'il nous a acquise par son sang à la croix pour tous ceux et celles qui veulent bien confier et se confier en lui dans le nom de Jésus-Christ. Et nous bénissons ton nom pour ce culte, pour cette journée, Seigneur, et pour toutes les fois où nous nous réunissons en ton nom, car tu es le prince de la paix. Tu es notre victoire. Tu es celui pour lequel nous voulons chanter et célébrer le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. À cause de la grâce de Dieu et de notre foi en Christ, nous sommes nés de nouveau, spirituellement vivants, et nous partageons une union spirituelle avec Dieu. Nous sommes déclarés justes et complètement acceptables aux yeux de Dieu. Notre position en Christ, elle est réglée et elle est solide. Mais nos actes quotidiens, reconnaissons-le, sont parfois marqués par l'échec et la désobéissance. Ils nous déçoivent et perturbent également notre harmonie dans notre relation avec Dieu. Nous sommes des saints, mais nous péchons. Vous pouvez le dire avec moi ? Nous sommes des saints, mais nous péchons. Et nous soupirons avec l'apôtre Paul qui dit, vous connaissez sans doute pour certains ces paroles dans la lettre aux Romains, chapitre 7, verset 19 et verset 24. « Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le commets. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps voué à la mort ?» Et voilà, mes amis, voilà le grand combat, voilà le grand dilemme. Voilà la guerre intérieure du chrétien. Alors que nous luttons avec le péché dans notre vie de saint et qui peut créer une certaine confusion dans nos esprits, dans notre marche, en nous posant ces questions, par exemple, puisque Dieu nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, pouvons-nous tout de même vivre dans les deux royaumes ? Puisque Dieu déclare que nous ne sommes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit, peut-on alors être sous la chair et sous l'esprit simultanément ? Dieu dit autrefois, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Peut-on être à la fois lumière et ténèbres ? Dieu affirme, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Peut-on être en partie une nouvelle créature et en partie une vieille créature? D'où le titre du message ce matin, un changement de nature. Un changement de nature. Voyez-vous, si nous croyons que nous sommes en partie lumière et en partie ténèbres, en partie saint et en partie pécheur, nous vivrons d'une manière très médiocre. Et peu de choses nous distingueront des non-chrétiens.
nous pourrons peut-être confesser notre tendance au péché, nous efforcer de faire mieux, mais nous vivrons continuellement dans la défaite parce que nous nous percevrons comme un pécheur sauvé par grâce, mais qui tient le coup comme il peut jusqu'au retour de Jésus-Christ. Et Satan sait qu'il ne peut rien faire contre ce que nous sommes en Jésus-Christ. Mais s'il peut vous faire croire que nous ne sommes pas différents de l'homme naturel, comme dit la parole de Dieu, c'est-à-dire avant votre conversion, ou de l'homme livré à lui-même, dans une certaine version assez particulière, Louis II, on voit dans l'homme animal. Mais retenons l'homme naturel, livré à lui-même. Eh bien, si nous croyons ce mensonge de Satan, nous agirons comme cette nature naturelle, livrée à nous-mêmes. Et pourquoi cette description ou ces questions que j'ai posées juste avant correspondent-elles à tant de chrétiens ? Parce que nous ignorons notre identité réelle en Christ. L'œuvre expiatoire, c'est-à-dire du sacrifice de Jésus à la croix, qui a lui-même enduré la peine que les autres méritaient, qui transforme les pécheurs repentants en saints, est la plus grande réalisation de Jésus sur la terre. Si le changement radical de nature, qu'on appelle la nouvelle naissance, se produit au moment de la conversion, j'aimerais vous dire que le changement progressif dans la marche quotidienne du croyant, ce qu'on appelle marcher en nouveauté de vie, continue toute la vie. Et il a pour fruit la sainteté. Et pour finalité, la vie éternelle. Que dit précisément la Bible concernant notre nature, dont nous allons parler et nous entretenir un peu plus ce matin ensemble, dans cet enseignement ? Le mot grec traduit par « nature » n'est utilisé dans ce sens que deux fois dans le Nouveau Testament. Quelle était notre nature fondamentale avant de naître de nouveau spirituellement ? Eh bien, la Bible et Paul nous disent dans Éphésiens que nous et tous les autres chrétiens, nous étions par nature des enfants de colère. Nous étions par nature des enfants de colère. Éphésiens 2, verset 3, c'est-à-dire mort au péché, assujetti à la puissance de Satan, vivant, pour le dire peut-être encore plus concrètement, vivant dans le seul but de satisfaire nos désirs et nos mauvais penchants. Telle est la condition de tous les non-croyants aujourd'hui. Ne nous voilons pas la face. Regardons réellement ce que dit la parole de Dieu nous concernant et concernant ceux et celles qui aujourd'hui ne lui appartiennent pas. Ce mot apparaît, le mot nature apparaît pour la seconde fois en 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 et 4, pour décrire notre nature après être venu à Christ. Si Paul, dans Éphésiens, nous parlait de cette nature des enfants de colère avant notre conversion, Pierre nous parle de cette nature après être venu à Christ. Écoutez ce qu'il dit. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elles, les promesses, nous devenions participants de la nature divine. Participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Quand je suis entré en union spirituelle avec Dieu par la nouvelle naissance, je n'ai pas ajouté une nouvelle nature à l'ancienne. Je suis devenu une nouvelle personne. Le salut n'est pas une addition, c'est une transformation. Le salut ne se limite pas au pardon des péchés par Dieu et à un passeport pour le ciel quand nous mourons. Le salut, c'est une nouvelle identité en Jésus-Christ. Dieu nous a fait passer des ténèbres à la lumière. Le pécheur est devenu un saint. Le pécheur est devenu un saint. Il y a quelque chose de nouveau en nous qu'il n'y avait pas auparavant. Si Dieu n'avait pas changé notre identité à la conversion, nous serions réduits à garder notre vieille identité jusqu'à la mort. Comment pourrions-nous espérer grandir en maturité si nous ne sommes pas dès le départ un enfant de Dieu transformé, comme nous l'avons chanté, comme nous l'avons entendu dans le témoignage? Le fait de devenir participant de la nature de Dieu est un élément fondamental de l'identité et de la maturité du chrétien. Et je vais le répéter, parce que c'est un élément fondamental. Le fait de devenir participant de la nature de Dieu. Dis-le à toi, et dis-le à ton voisin si tu veux, je suis participant de la nature de Dieu. Dis-le. C'est fondamental pour ton identité et pour ta maturité, pour ta croissance. Éphésiens 5:8 décrit le changement essentiel dans notre nature lors de notre conversion. Dieu a transformé notre nature profonde de ténèbres en lumière. Il ne s'agit pas dans ce passage d'améliorer notre nature. Il s'agit d'apprendre à marcher en harmonie avec notre nouvelle nature. Comment me direz-vous? Parce qu'il est là le conflit. Il est là le dilemme pour beaucoup de chrétiens. C'est comment, alors que je suis converti, alors que j'appartiens à Jésus-Christ, mais que je vis dans un corps de chair, comment je vis avec ça? Comment je fais face à cela? Eh bien, la parole de Dieu est très claire, très simple. Elle nous dit, voilà comment tu peux apprendre à marcher en harmonie avec ta nouvelle nature, en marchant par la foi et selon l'Esprit. Marcher par la foi et en marchant selon l'Esprit. Ça, c'est ce que nous verrons dans un prochain message. Mais j'aimerais continuer sur cette nature. Pourquoi avons-nous besoin de la nature de Christ en nous? Si nous nous sommes posé la question, que dit la Bible sur notre nature? Nous avons vu cette nature avant la conversion d'enfant de colère, cette nature après la conversion qui est une nature divine que Dieu a mis en nous. Pourquoi avons-nous besoin de la nature de Christ en nous? Pour que nous puissions être comme Christ. C'est ça, chrétien, être comme Christ. Pas seulement agir comme lui. Dieu ne nous a pas donné le pouvoir de l'imiter. De l'imiter. Il nous a rendus participants de sa nature pour que nous puissions être comme lui. On ne devient pas chrétien en agissant comme un chrétien. Notre relation avec Dieu n'est pas basée sur des performances. Il ne dit pas « voici le niveau que j'attends, alors soyez à la hauteur ». Non, il sait que nous ne pouvons pas résoudre le problème de notre vieille nature pécheresse par une simple amélioration de notre comportement. Il doit changer notre nature. Nous donner un être intérieur totalement nouveau. La vie de Christ en nous. C'est ce qui constitue la grâce nécessaire pour atteindre les exigences de Dieu. Alléluia! Renouvelé par Jésus-Christ dans notre identité et rendu participant de sa nature, alors nous pouvons changer notre comportement. Je redis également cette déclaration. Rendu ou renouvelé par Jésus-Christ dans notre identité, rendu participant de sa nature, alors nous pouvons changer notre comportement. Si tu ne crois pas cette vérité, que Dieu change et transforme profondément ta nature et qu'il a implanté en toi la nature de Christ, alors tu ne pourras pas changer. Tu es voué à l'échec. Maintenant, certains me diront, mais Paul n'a-t-il pas dit à un moment « Je suis le premier des pécheurs ». Oui, quand Paul dit ça, comprenons bien que lorsque Paul dit ça, il parle de son état avant sa conversion et de ce qu'il était et de ce qu'il a fait. Et bien sûr qu'il nous fait comprendre qu'il vit lui aussi comme nous dans un corps de chair. Alors, quelle est la relation du chrétien avec la chair? devons bien comprendre ces notions, ce vocabulaire que nous utilisons, mais qui parfois crée la confusion. La chair décrit la façon dont j'agissais autrefois lorsque j'étais un homme, une femme naturelle, livrée à moi-même, avant ma conversion. Mais la Bible fait une différence entre le fait d'être sous l'emprise de la chair et vivre selon la chair. Les chrétiens ne sont plus sous l'emprise de la chair, car nous sommes en Christ. Nous avons une nouvelle nature, une nature spirituelle. Alléluia ! Nous ne sommes plus indépendants de Dieu. Nous avons déclaré notre dépendance vis-à-vis de lui en plaçant notre foi en Christ. Mais même si nous ne sommes pas sous l'emprise de la chair, nous pouvons encore choisir de vivre selon la chair. C'est ce que dit Paul dans la lettre aux Romains, chapitre 8, versets 12-13. Nous pouvons encore agir, comprenons bien, nous pouvons agir indépendamment de Dieu, en agissant selon la mentalité, les modèles, les habitudes incrustées en nous par le monde. Et Paul reprend les chrétiens de Corinthe. Il reprend les chrétiens de Corinthe qui manquent de maturité et il les appelle même charnels. Il dit d'eux qu'ils sont charnels. Et là, vous avez compris ce que ça veut dire qu'être charnel, c'est-à-dire d'agir comme lorsque nous étions des hommes, des femmes naturels, livrés à nous-mêmes avant notre conversion. Pourquoi il les appelle de cette façon-là ? À cause de leur jalousie, à cause de leur querelle, à cause de leur division, à cause de leur identité mal comprise. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 1 à 3. Et l'apôtre Paul donnera en Galates, une autre lettre qu'il a écrite, chapitre 5, 19 à 21, la liste des manifestations d'une vie selon la chair. Voyez-vous, les non-croyants ne peuvent s'empêcher de vivre selon la chair parce qu'ils sont complètement sous l'emprise de la chair. Mais nous, les chrétiens, majorité d'entre nous là, qui sommes ici présents, nous ne sommes plus sous l'emprise de la chair. Et nous n'avons plus besoin de vivre selon ses désirs. Parce que Dieu s'est chargé de nous débarrasser de notre vieil être, vieille nature, nature pécheresse, ces termes que nous retrouvons dans la parole de Dieu. Dieu s'est chargé de nous débarrasser de notre vieil être, mais notre responsabilité, à toi, à moi, consiste à rendre la chair et ses œuvres inefficaces. C'est ce que nous dit Paul dans la lettre aux Romains. Dieu a changé notre nature, mais nous sommes chargés de changer notre comportement, de faire mourir les actions du corps, dit autrement, le comportement de notre être égoïste. Dieu a changé notre nature. Nous sommes nous, dit autrement, Dieu a fait sa part. Il a changé notre nature en Jésus-Christ. Mais nous, aujourd'hui, notre responsabilité, à toi, à moi, nous sommes chargés de changer notre comportement, de faire mourir les actions du corps ou le comportement de notre être égoïste. Alors, comment faisons ça ? Comment on fait ça, pasteur ? Deux éléments principaux contribuent à donner la victoire contre la chair. Premièrement, nous devons apprendre à conditionner notre comportement en fonction de notre nouvelle nature qui est investie de la nature de Christ. Et Paul promet, Paul nous dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Cet apprentissage de la marche par l'esprit sera aussi le thème d'un prochain message. Mais ça ne sera pas seulement le thème d'un message. C'est le thème de toute notre vie, mes amis, en tant que chrétiens. Apprendre à marcher par l'esprit. Et si j'apprends à marcher par l'esprit, je ne vivrai plus selon les désirs de la chair. Le deuxième élément principal que nous donne l'apôtre Paul pour changer notre comportement, de faire mourir les actions du corps ou le comportement de notre être égoïste, c'est que notre vieille manière de penser et de réagir selon notre chair, qui était conditionnée par le péché, doit être, il dit, transformée par le renouvellement de notre intelligence. Transformée par le renouvellement de nos pensées. Nous étudierons aussi notre foi, en quoi consiste ce renouvellement de l'intelligence. Alors si nous avons vu et compris un peu mieux quelle est notre nature, quel est ce changement de nature que Dieu a opéré en Jésus-Christ, pourquoi nous avons besoin de la nature de Christ en nous? Pourquoi tu en as besoin? Pourquoi j'en ai besoin? Et quelle est la relation du chrétien avec la chair? Nous pouvons nous demander quel est le rôle du péché dans notre combat pour un comportement sain, puisque nous avons compris que nous ne sommes plus des pécheurs, nous sommes, nous qui avons accepté par la foi en Jésus-Christ, nous sommes devenus saints. Quand nous avons accepté Jésus, le pouvoir du péché n'a pas été aboli. Est-ce que vous me suivez? Quand nous avons accepté Jésus-Christ, le pouvoir du péché n'a pas été aboli, mais son pouvoir de nous dominer a été brisé par notre mort, notre résurrection et notre justification. Le pouvoir du péché n'a pas été aboli, mais le pouvoir de nous dominer a été brisé par notre mort, notre résurrection et notre justification à la croix en Jésus-Christ. Et le péché pousse encore fortement notre chair à continuer d'agir indépendamment de Dieu. Donc le péché, ce qu'il fait, c'est qu'il pousse notre chair à continuer d'agir indépendamment de Dieu. Et voyez-vous cette description frappante du combat contre le péché dans la vie du croyant se trouve dans cette introduction que j'ai faite, que j'ai lue tout à l'heure, de Paul aux Romains, au chapitre 7, et dans les versets 15 à 25, sur lesquels on va s'arrêter maintenant. Dans les versets 15 et 16, Paul pose le problème suivant, Romains 7, 15 et 16. « En effet, je ne comprends pas ce que je fais, » je lis dans la version Semeur. « Je ne fais pas ce que je veux, » et c'est ce que je déteste que je fais. Et si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Remarquez avec moi que dans ces deux versets ne parlent que d'une seule et même personne, je. Je, qui est mentionné 9 fois en 2 versets. Notez aussi que cette personne a de bonnes intentions. Elle approuve même la loi de Dieu. Tu es chrétien, tu aimes Dieu, tu aimes sa parole, tu es d'accord avec les commandements de Dieu. Et le problème, c'est que parfois, nous n'arrivons pas à les vivre. C'est ce que Paul est en train de nous dire. Mais ce chrétien bien intentionné, il a un problème de comportement. Il sait ce qu'il devrait faire, mais pour une raison quelconque, il ne peut pas le faire. Il est d'accord avec Dieu, mais il finit par faire précisément ce qu'il déteste. Les versets 17 à 21 qui suivent révèlent la cause de ce problème de comportement. Et je pense que ce que Paul vivait, toi et moi, soit nous l'avons vécu, soit nous le vivrons, soit nous reconnaissons dans ce qu'il vit. Paul dit maintenant, ce n'est plus moi qui accomplis cela, mais le péché qui habite en moi. Car je le sais, ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Car je suis à même de vouloir, mais non d'accomplir le bien. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui l'accomplis, mais le péché qui habite en moi. Je trouve donc cette loi pour moi qui veut faire le bien. Le mal est présent à côté de moi. Nous avons maintenant 2 sujets, pas seulement je, mais il y a le péché et moi. Paul parle maintenant du péché et de lui. Mais le péché est clairement distinct de moi. Le péché ne fait qu'habiter en moi. Le péché m'empêche de faire ce que je veux faire. Mais il me revient à toi et à moi, et à chaque jour, il me revient de permettre au péché de régner ou de ne pas régner dans ma vie. Ces versets disent-ils que je suis bon à rien, que je suis le mal ou que je suis le péché ? Absolument pas. Il dit, ces versets, que j'ai quelque chose qui habite en moi qui n'est pas bon, qui est même mauvais. Mais ce n'est pas moi. Je vais vous prendre un exemple. Si j'ai une écharde dans le doigt, vous avez déjà connu cette expérience d'avoir une écharde dans le doigt ? Je peux dire que j'ai quelque chose en moi qui n'est pas bon. Vous êtes d'accord ? Mais ce n'est pas moi qui ne suis pas bon. Je ne suis pas l'écharde. L'écharde qui est plantée dans mon doigt, elle est mauvaise. De même, je ne suis pas le péché et je ne suis plus un pécheur. Je suis un saint qui lutte avec le péché, qui me pousse à faire ce que je ne veux pas faire. Les versets 22 à 23, on continue dans ce que Paul déclare, les versets 22 à 23 de Romains, chapitre 7, localisent le champ de bataille du combat entre le péché et moi. Donc, on est en train ensemble de discerner ce qui parfois dans mon identité spirituelle, dans mon identité chrétienne, dans ma marche en nouveauté de vie, peut me bloquer, peut susciter de la confusion, peut me permettre de tourner en rond. Quand je comprends qui je suis, quelle est ma nature spirituelle en Christ, quand je comprends ce que c'est que la chair, que Dieu a changé et transformé mon vieil être en un nouvel être, ma vieille nature en une nouvelle nature. Quand je comprends quel est le rôle du péché qui habite en moi, qui n'a pas été aboli, mais dont la domination a été brisée par l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix et dans laquelle je m'identifie, alors je peux mieux comprendre où est le champ de bataille du combat entre le péché et moi. Paul dit, dans mon être intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu. Mais je vois bien qu'une autre loi est à l'œuvre dans tout mon être. Elle combat la loi qu'approuve ma raison et elle fait de moi le prisonnier de la loi du péché qui agit dans mes membres. Où réside mon désir de faire le bien ? Paul le dit. Dans mon être intérieur. Pour faire allusion à mon nouvel être, où mon esprit et l'esprit de Dieu sont unis. Ça, c'est la partie de moi qui est éternelle. Cet être nouveau, cet être spirituel que je suis devenu. Où maintenant le péché lance-t-il ses attaques pour m'empêcher de faire ce que je veux vraiment faire ? Ma chair, dans ma chair, dans mon habitude d'indépendance, de continuer à favoriser la rébellion contre Dieu, nous dit Jacques. Ça, c'est la partie de moi qui est temporelle. Et où ces deux adversaires luttent-ils donc ? Le champ de bataille se trouve dans mes pensées. Le champ de bataille se trouve dans mes pensées. C'est pour cette raison qu'il est important que nous comprenions comment renouveler nos pensées, comment être transformé, renouvelé dans notre intelligence, dans notre façon de penser, et comment faire prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. Paul conclut sa description du combat entre le péché et la nouvelle nature avec cette exclamation « Malheureux que je suis !» Qui me délivrera de ce corps voué à la mort ? Notez bien qu'il n'a pas dit « pécheur que je suis ». mais malheureux, car il n'y a pas plus malheureux que celui qui a permis au péché de régner dans son corps. Si nous permettons à notre corps d'être l'instrument du mal, nous donnons une entrée à Satan dans notre vie et il n'apporte que tristesse. La bonne nouvelle, c'est que Romains 7, 24 et suivant, est suivi de Romains 7, 25, pardon, et de Romains 8, 1, qui dit « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Plus aucune condamnation pour ceux, celles qui sont en Jésus-Christ. J'ai demandé aux musiciens de bien vouloir me rejoindre. Et nous allons terminer ce message, cette pensée ce matin. Lors de notre conversion, chers amis, et c'est important que tu sois jeune dans la foi ou que tu aies un certain nombre d'années d'expérience ou de marche chrétienne, de bien comprendre, de bien réaliser tout à nouveau cette vérité biblique. Lors de notre conversion, nous avons été complètement justifiés aux yeux de Dieu. Notre vieille nature a été détruite pour toujours. Nous avons été rendus participants de la nature divine, c'est-à-dire la nature de Christ. Nous sommes devenus des nouvelles personnes en Christ et nous avons été déclarés saints par Dieu. Cette transformation a été faite une fois pour toutes. Nous ne pouvons rien faire pour améliorer la transformation et la justification que Dieu a opérée en nous. Dieu attend uniquement que nous croyions ce qu'il a fait et que nous acceptions notre identité d'enfant de Dieu. Dieu attend uniquement que nous croyions ce qu'il a fait par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, par sa vie donnée, son sang qui a coulé. L'œuvre du Saint-Esprit qui a été répandu sur le peuple de la Nouvelle Alliance. Croire uniquement ce que Dieu a fait et que nous acceptions notre identité d'enfant de Dieu. Maintenant, la marche en nouveauté de vie. Tu as eu ta conversion, alléluia. Reconnais maintenant ta condition d'enfant de Dieu, de ce que Dieu a fait, de ce que Dieu a accompli. Crois ce que Dieu te dit, ce qu'il a fait, ce qu'il a accompli pour toi. Maintenant, ta marche en nouveauté de vie, ça c'est le fait d'agir progressivement en fonction de ta nouvelle identité. Donc tu vois bien que si tu comprends pas ta nouvelle identité en Jésus-Christ, ta marche va être assez délicate. Mais si tu comprends bien ton identité en Jésus-Christ, ta marche va être cohérente. Ta marche va être progressive. Ta marche va être victorieuse. Notre vieil être est mort, mais la chair et le péché vivent encore. On est d'accord avec ça? Tu l'avais remarqué? Hein, ton vieil être à l'intérieur, il est mort. Parce que t'es mort et ressuscité avec Jésus-Christ, t'es justifié. Mais nous vivons, toi et moi, dans un corps de chair. Et le péché n'a pas été aboli. Le péché sévit toujours aujourd'hui. Et comme Paul l'a dit, c'est Paul qui l'a dit, il vit en moi. Je suis un saint qui lutte avec le péché. Et ce que je peux permettre, c'est que le péché ne domine plus dans ma vie. Voilà ma responsabilité dans mon comportement, dans ma façon d'être, dans ma façon de parler, dans ma façon de penser. Et je suis appelé à lutter tous les jours contre notre nouvel être pour dominer notre vie. Nous parvenons, bien-aimés, à la croissance et à la maturité spirituelle quand nous acceptons qui nous sommes et que nous faisons ensuite ce que nous devons faire pour renouveler notre intelligence et marcher selon l'Esprit. Amen. On va se lever ensemble. On va prier pour ce qui a pu être partagé ce matin. Pour toi, pour la famille de Dieu, le peuple qui est ici, que ce soit du premier ou du deuxième culte, pour les prochains messages qui vont nous encourager dans cette perspective, dans cette solution, de marcher par la foi, de marcher par l'esprit, de marcher en nouveauté de vie, parce que nous voulons ensemble progresser dans cette marche. Nous voulons ensemble être des hommes et des femmes qui marchent victorieusement sur le chemin, dans le destin, comme nous l'avons entendu, que Dieu nous a tracé. Et pour ça, nous devons comprendre, nous devons saisir, nous devons accepter ces vérités concernant notre identité spirituelle en Jésus-Christ. Puissions-nous prier ensemble. Je ne sais pas ce que tu as envie de demander à Dieu, mais tu es invité à lui parler. S'il y a des choses que tu as entendues, que peut-être tu n'as pas saisies, tu n'as pas compris, demande-lui de t'éclairer. Demande-lui encore de t'aider à accepter certaines réalités. Peut-être dans les jours prochains, d'aller méditer, réfléchir davantage sur ces vérités bibliques que tu vis dans ta nouvelle nature, dans ton nouvel être, par rapport à la chair, par rapport au péché, par rapport surtout à la croissance, à la maturité vers laquelle il t'appelle. Il désire que nous avancions, toi et moi, que l'Église progresse, l'Église de Jésus-Christ progresse, avance dans cette marche en nouveauté de vie, afin d'être des témoins, avec rempli de cette autorité, de ce témoignage qui glorifie Dieu notre Père. Que ce soit personnellement, individuellement, que ce soit les jeunes, les moins jeunes, que ce soit dans les couples, dans les familles. Nous avons tellement à gagner ensemble si nous désirons marcher en nouveauté de vie, si nous acceptons de comprendre, de saisir notre nouvelle identité spirituelle. Nous avons tellement de victoires à remporter les uns et les autres. Oh, non pas pour notre propre gloire, mais pour la gloire de son nom. Pour qu'un témoignage digne de son nom lui soit rendu. Pour que des âmes nouvelles viennent à Jésus-Christ. Pour que de nouvelles personnes voient en toi et en moi des personnes différentes de celles qu'elles côtoient au quotidien dans cette société et dans ce monde. Qui eux sont sous l'emprise de la chair. Et ils vivent selon les désirs de la chair, c'est logique. Parce qu'ils n'ont pas été renouvelés, régénérés, ils n'ont pas vécu la nouvelle naissance. Mais c'est notre prière pour eux. C'est notre désir pour ces personnes de l'extérieur, qu'ils ne te connaissent pas encore. Et c'est là où nous avons notre responsabilité, qui est engagée, individuellement et collectivement. Seigneur, entends nos prières qui s'élèvent vers toi, de ton peuple, de tes enfants, Seigneur. Chacun pour notre part, nous recevons ta parole, qui est la vérité, qui est là pour nous enseigner, qui est là, Seigneur, pour nous montrer, nous révéler ton cœur, tes désirs. Seigneur, la manière dont tu veux que nous marchions, les uns et les autres, en nouveauté de vie. Merci, Seigneur, pour l'identité spirituelle que nous avons en Jésus-Christ. Merci pour ce que tu nous as acquis. Merci pour ce qui a été crucifié, ressuscité et justifié en toi. Merci pour la nouvelle nature que tu as déposée en nous. Tu n'as pas, Seigneur, ajouté une nouvelle nature à notre ancienne nature. Tu as transformé notre ancien être, Seigneur, en quelque chose de nouveau. Nous voulons le saisir, le comprendre, l'accepter et apprendre, Seigneur, à marcher en harmonie avec notre nouvelle nature dans notre comportement. Merci de nous responsabiliser, merci de nous sentir responsables, Seigneur, de la manière dont nous nous comportons. Non plus comme des hommes et des femmes charnels, bien que vivant dans un corps charnel, mais notre façon de penser, notre façon de nous comporter ne correspond plus à ce que nous étions avant notre conversion. Et nous te bénissons, Seigneur, pour ce que nous découvrirons encore dans les prochaines semaines, dans les prochains messages, sur cet encouragement à marcher par la foi et selon l'Esprit. Bénis ton peuple, bénis tes enfants, bénis mes frères et sœurs dans la foi, bénis ceux qui commencent le chemin de la vie avec toi. Bénis, Seigneur, ceux et celles qui ont, Seigneur, des années de marche avec toi et qui savent très bien que nous sommes appelés en tant que saints à lutter contre le péché. Que personne n'est exempt de ce combat, mais que tu nous as donné toutes les armes. Toutes les armes sont à notre disposition pour être victorieux. Dans le nom de Jésus. Amen.